RMC.
Ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques et comme là il n'y en a pas, ils doivent le faire. Donc.
J'espère que la route va vite tourner.
RMC Football Show.
Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Soyez les bienvenus dans l'after, c'est parti pour deux heures de bonheur. Avec au programme, eh bien, la semaine européenne qui revient avec la dernière journée des phases de groupe de Ligue des Champions qui débute demain pour Pierre Ducrot, l'OL et le Paris Saint-Germain sont à un virage de leur histoire. Dans quelques instants également...
Carrément.
C'est
un peu trop fort.
On vend le truc, Pierre.
Ok, bon, vendons comme ça.
Vous donnez envie.
L'histoire de ces deux clubs. Bien sûr, monsieur Rieu.
J'aimerais bien qu'on ne tombe jamais dans ce genre de vent.
Non, mais
façon Galerie Lafayette.
L'histoire récente.
Merci. Laissons ça aux médias.
L'histoire de la saison, Daniel.
Voilà. L'histoire des cinq derniers matchs, quoi, tu vois.
J'aime qu'on redimensionne dans ces heures de radicalité et d'exubérance et de folie. J'aimerais que on rigole un peu dans le foot et qu'on fasse ça parce que je suis franchement saoulé par tout ce que j'entends.
Monsieur Riolo.
Je vous le dis sincèrement.
Ou ce qu'on n'arrive pas à entendre non plus.
L'after mérite un débat. Monsieur Riolo qui s'exprimera dans quelques instants sur la VAR, mais pas seulement. Pas mal d'infos
sur
du jour
le
également.
VAR, putain.
Moi je dis la VAR, moi. Moi c'est la vidéo assistance. Je comprends pas pourquoi on dit le VAR. L'UEFA dit la VAR par exemple. Ils écrivent la VAR.
Et pourquoi on dit le alors?
Je sais pas, je crois que c'est l'équipe qui a décrété ça, si je dis pas de conneries.
Alors nous le ferons compte.
Elle était sûre.
Ah, surtout aujourd'hui, Daniel.
Parce que moi,
je savais que si je disais ça, j'en sais rien en plus.
Non, parce que moi, très franchement, je sais pas comment on dit.
Ah non, on dit la vidéo assistance.
Bah, la vidéo assistance, oui, c'est vrai que ça
on
paraît.
On dit une vidéo, une assistance, on dit pas, tu vois, je comprends pas moi.
Et c'est quoi le R déjà?
Ouais, déjà, c'est quoi le R?
C'est
vidéo assistance.
Rapide.
Non, c'est pas la vidéo assistance.
C'est très grave.
Replay. Attends, vidéo assistance.
C'est très grave pour vous de ne pas savoir ça.
Ouais.
Bon, après, je te laisserai dans ton ignorance.
Ouais, c'est vrai,
je te laisserai dans ton ignorance.
Ça veut dire quoi, Daniel?
Je ne le dirai pas, tu devrais le savoir. C'est honteux que tu ne le saches pas.
Forcément, si je tape VAR assistance, je tombe sur un site d'assurance en ligne, tu vois. Donc, déjà, je suis
normal.
Pas mal. C'est pas bon.
Honteux que tu
Daniel,
ne le saches pas.
Daniel a les mêmes stratégies que les hommes politiques en ce moment.
Mais c'est referee d'ailleurs.
Tout à l'heure, on demandait à un homme politique comment faire face aux établissements
vidéo
bloqués.
Assistant.
Il a dit, mais je ne vais pas vous le dire, je garde la solution pour moi.
Video assistant referees, that's it.
Hey, referees. C'est ça.
C'est exactement ce que je pensais. Je trouve ça lamentable que tu sois passé à côté de ça.
Quel mytho sommeil.
Quelle déception.
Je vais essayer de me rattraper en faisant des cadeaux. C'est déjà Noël sur RMC à cette occasion. La hotte de l'after est déjà pleine à craquer. Il est là le cadeau. Vous envoyez Noël au 7-32-16 à la fin de cet after. Et ben il y a l'un d'entre vous qui sera tiré au sort. Alors il y a des jeux vidéo à gagner, il y a des consoles de jeux, il y a des tablettes tactiles, il y a des téléphones, enfin voilà, tout est high tech sur RMC. Vous envoyez donc Noël au 7-32-16 et j'en profite également pour vous rappeler que c'est le retour du championnat universitaire de foot à 5 en France. RMC, la Fédé française du sport universitaire, le 5, lance la 4e édition de la RMC 5 Cup. Vous pouvez déjà vous inscrire sur rmc.fr pour les étapes qualificatives et qui sont organisées sur 10 semaines dans 16 villes de France. La finale nationale, elle se déroulera le 27 avril 2019 au 5 à Paris 18. Bonne chance à vous. Les gars, demain, retour de la Ligue des Champions, étoile rouge Belgrade, Paris Saint-Germain. Alors en parallèle, il y aura un match très important pour le PSG aussi entre Liverpool et Naples. Alors le PSG qui sera qualifié s'ils battent l'étoile rouge. En cas de défaite, si Liverpool perd ou fait match nul, il y a pas mal de cas de figure. Mercredi, c'est Lyon qui jouera sa qualification à Kiev face au Shakhtar. Ce sera d'ailleurs à Kharkiv, c'est en Ukraine. Manchester City, Hoffenheim dans le même temps également. Il suffit d'un nul pour que l'OL se qualifie aussi. Et justement, tu veux lancer un débat, mon Pierre? Jingle du crew.
Moi, il y a un truc qui m'énerve, Jonathan, par contre, c'est quand t'emploies des mots que je connais pas. Exogène. Tu pouvais pas dire un recrutement qui vient de l'extérieur?
Et toi, Pierrot, tu dis?
C'est pas un débat.
Bon, c'est un débat, enfin, une analyse.
Ouais, c'est une analyse, mais qui, enfin, je pense pas que ça porte vraiment à débat. Vous me direz ça, mais je pense qu'on tirera un constat du résultat qui arrivera de ces deux matchs et qu'il y aura forcément. Et je dis pas tout, je le garde pour la fin.
Non mais ça y est, il y est là.
Ça c'est un teasing, ça c'est bon, je peux y aller.
Mais c'est on y est là.
Non, je vais utiliser.
Il n'a pas compris.
Non, il n'a pas compris.
Je vais utiliser.
En fait, quand tu as ton jingle derrière, t'enchaînes.
Non, non, mais je pensais qu'elle allait finir sa phrase quand même.
Est-ce que tu veux refaire le sommaire depuis le début? Il n'a pas compris que l'émission a démarré.
Ce qui surprend Daniel.
L'émission a démarré.
Ce qui surprend Daniel, c'est quand quelqu'un
commence
une phrase et l'autre veut la laisser finir. T'avais commencé une phrase, c'est pour ça que je croyais qu'il allait finir.
Cousin, tu m'as coupé.
Il est complètement là.
Je t'ai coupé, mais je suis suffisamment poli pour laisser quand même finir ta phrase.
Jingle.
Mais je vais.
Attends.
On la refait, d'accord.
RMC Football Show. L'After Foot, Nicolas Villas.
Oh, Arrivons sur les blagues dans l'after. On est ensemble pendant deux heures de bonheur. Avec nous ce soir, Daniel Riolo. Bonsoir, Daniel.
Bonsoir, les amis.
Ça va, Daniel?
Très bien.
Voilà. Pierre Ducrot également est avec nous. Bonsoir, bonsoir messieurs. Je vous rappelle donc tous les résultats de la 17e journée. Il y en a eu beaucoup. Il y en a pas eu beaucoup.
Pierre. Pitié.
Je vais utiliser la même métaphore que j'ai utilisée, Daniel. Tu t'en souviendras parce que c'était deux fois le lundi, on était ensemble. Ce virage amorcé par Tourelle et son groupe, surtout par Tourelle au début et le groupe qui suit derrière. Tourelle a pris des risques dans les matchs de Ligue des Champions et pas que, dans d'autres matchs aussi d'ailleurs. On se souvient par exemple de l'OM avec les sanctions de Rabiot et de Mbappé, des messages forts et le groupe qui suit derrière, ça a amorcé quelque chose justement dans ce virage pris par Tourelle et son bus, l'équipe dans le bus. Il y a eu le match de Liverpool. Avant Liverpool, il y a eu le match de Naples où on sent déjà que au niveau du caractère, l'équipe répond présent. Tout n'est pas parfait, mais ça répond présent. Il y a le match de Liverpool ensuite où tactiquement, Tourelle fait des choses. Je vais pas dire le mot, mais un peu couillu quand même. Certaines choses tactiquement que le groupe, ce quasiment ce même groupe n'aurait pas suivi l'année d'avant. Voilà, très clairement, Unai Emery en a fait notamment les frais. Je parle bien sûr de Marquinhos par exemple, qui tactiquement toute la première période, elle fait très très bien. D'ailleurs, on était surpris, mais ça a très bien marché, qui passait de cette ligne de défense à cette ligne du milieu de terrain. Ça a très bien marché. Cette deuxième période où tactiquement on n'arrive plus à être aussi bon, mais où ça révèle des forces, une force collective ou une âme, un état d'esprit collectif du côté du Paris Saint-Germain pour tenir bon contre Liverpool. Donc on est dans ce virage qui est pris très vite avec des risques.
Bah,
donc
j'ai été entamé il y a déjà quelques saisons. Même,
j'ai cette métaphore. Non, parce que les saisons d'avant justement c'est des petits virages à chaque fois, mais où tu loupes le.
T'avançais pas, et puis tu loupais
la sortie surtout. Tu loupais le virage.
Une forme de stagnation.
Là t'es dans un virage, mais c'est vraiment la métaphore que j'ai. T'es dans un virage, tu l'attaques très fort, donc tu prends des risques. T'es limite en train de faire presque du deux roues. Daniel va pas comprendre parce qu'il est déjà en deux roues lui toute la journée, mais toi sur quatre roues, Daniel, tu vois. Et puis tu l'attaques fort le virage. Et t'es à la limite de faire du deux roues. Et là, ce match-là qui arrive pour moi, qui est à la portée du Paris Saint-Germain, mais qui va être compliqué et qui va se jouer une fois de plus, à mon avis, sur un état d'esprit irréprochable collectivement. Et ben, c'est le match où soit tu bascules et tu fais des tonneaux parce que t'étais trop vite et que le PSG est pas encore prêt à ça ou n'arrive pas à faire ça finalement. Et il faudra en tirer beaucoup de conclusions. Soit, ce virage, tu l'as pris à la limite de ce qu'il fallait prendre à pleine vitesse. Et quand tu vas sortir du virage, si tu gagnes à Belgrade et que tu sors de ce groupe, donc, devant, t'as une ligne droite où t'auras appris beaucoup de choses dans ce virage bien négocié par Tourelle et son groupe. C'est là la métaphore un peu. C'est que le PSG aura beaucoup plus grandi dans ces trois matchs-là de la phase retour notamment. Que justement, dont, comme tu en parles, les saisons précédentes. Voilà, c'est et tout ça en l'espace de deux mois et demi. Voilà, finalement.
Et Lyon alors?
Alors Lyon, c'est un peu l'inverse. Si je veux utiliser un peu la même métaphore d'une course un peu automobile ou d'un virage, c'est presque. Je vais pas dire qu'on les attendait pas parce qu'on avait envie qu'ils sortent et puis c'était possible de sortir de ce groupe, mais c'était pas l'équipe qu'on attendait le plus à la fin de cette phase de poule. C'est l'équipe qui finalement a fait deux exploits en pleine course. C'est les deux exploits contre Manchester City. Quand on fait deux de suite, ça ressemble plus à un exploit. Ça ressemble à des très très bons matchs, des très très belles performances. Et puis t'es dans la courbe, le dernier coup de volant est dans le rétro. Et t'as cette équipe que t'affrontes pour une finale de groupe. Et va falloir tout maîtriser là. C'est pas un match où tu dois réaliser un exploit. C'est un match où tu dois tout maîtriser collectivement pour Lyon, parce que juste derrière, t'as le Shakhtar qui est là et qui est prêt à te doubler si tu fais le moindre écart, si tu fais la moindre faute. Et c'est tout l'intérêt de ce match contre Lyon, c'est qu'ils doivent apprendre là, ou en tout cas ils doivent faire en un match, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans cette phase de poule, c'est-à-dire après avoir fait des exploits ou des très grosses performances contre City, valider derrière dans des matchs qui sont un peu plus à leur portée. Et là, pour moi, ça correspond, cette finale de groupe avec beaucoup de pression, match difficile pour eux, ça va correspondre à ça. S'ils sortent vainqueurs de ça, Peut-être qu'on pourra se dire que les Lyonnais ont compris pas mal de choses.
Ça fait un moment que Lyon, en plus, n'a pas passé la phase de groupe de Ligue des Champions. Depuis 2011-2012. Ouais.
L'année où, derrière, ils se font taper par Nicosie.
Ouais, en 8e.
Je crois, en 8e.
Oh, oui, exact.
Effectivement.
J'ai oublié
donc,
ça.
Donc, pour Lyon, je dirais qu'effectivement, il y a, mine de rien, on peut employer le mot, quelque chose d'un peu historique, dans le sens où ils retrouvent goût à une histoire qu'ils ont abandonnée depuis longtemps.
Est-ce que tu dis que c'est inattendu aussi?
J'ai pas dit que c'était inattendu.
Non, mais le groupe est pas simple.
Mais voilà, c'est peut-être pas ceux qu'on attendait le plus. Voilà.
Bon, après, c'est de la Ligue des Champions, hein, donc forcément.
Excuse-moi, mais puisque le président de ce club aime ramener l'analyse du foot à beaucoup de considérations financières.
Oui, si on prend les budgets, c'est sûr, tu vas me dire qu'ils sont deuxièmes et que c'est normal.
Déjà, Lyon n'aurait pas dû attendre si longtemps avant d'être en huitième de finale de Ligue des Champions. Quand tu vois les équipes qui ont participé au huitième de Ligue des Champions depuis qu'eux n'y sont plus, je pense que Lyon avait sa place sur les 6-7 saisons au moins la moitié du temps, au moins. L'année où ils ne sortent pas dans le groupe avec Séville, la Gantoise et le Zénith, c'est un bel échec. Là, cette fois, au moment du tirage au sort, sans dire que c'était facile, quand même, Lyon a les moyens de terminer deuxième derrière City, parce que Hoffenheim et Shakhtar, ça doit être à la portée de Lyon. Et si au final, ils arrivent à ne pas perdre en Ukraine, eh bien finalement, c'est une forme de logique qui aura été respectée, et ce sera très bien pour ce club, et tant mieux d'ailleurs, ça validera leur exploit de l'Etihad, parce que sinon ils n'ont pas gagné de match dans cette phase de poule. Donc ils peuvent passer encore une fois là en faisant un nul, ce qu'ils ont beaucoup fait dans cette phase de poule. S'ils gagnent, tant mieux, ils ont gagné à City avec une tactique de contre qui pour le coup
qui a été mise en place.
Ouais, mais je sais pas si contre le Shakhtar ils peuvent jouer de cette façon-là, parce que le Shakhtar va pas se ruer à pas dans son style le jeu de City où
sauf qu'à un moment donné ils vont être un peu obligés de le faire quand même, parce que c'est une finale et une finale où le Shakhtar doit gagner.
Tout dépend du scénario du match. Si effectivement t'es à 0-0 à un moment le Shakhtar va de toute façon devoir appuyer,
devoir se libérer.
Mais je suis pas sûr qu'ils partent très fort à l'abordage ou dans la façon qu'a Manchester City de sortir sans se soucier de l'adversaire, toujours avec le même style. Donc c'est pas un match simple. Ils ont 2 résultats sur 3 qui sont favorables pour eux. C'est un pourcentage qui est quand même intéressant face à une équipe qui est habituée un peu plus que Lyon sur les dernières années à être bon en Ligue des Champions. Mais quand même, 2 résultats positifs sur 3, c'est bien. Alors, après, non, PSG, on répond pas.
Non, je voulais juste qu'on écoute Jean-Michel Aulas, qui était l'invité de Breaking Sport cet après-midi, qui était sur RMC et RMC Sport. Donc, alors on a demandé au président Jean-Michel Aulas si une qualif en huitième des champions était capitale pour son club. Il répond ça, le président de l'OL.
Quand on a la chance d'avoir la qualité offensive de l'Olympique Lyonnais, il faut accepter de prendre plus de risques. Il faut être présent et en championnat et en Champions League. Il faut tenir l'objectif de qualification, c'est ce qu'on va essayer de faire mercredi. Et puis, il faut être placé à la fin du championnat pour pouvoir se retrouver sur le podium, qui est notre objectif. Et pour le moment, rien ne dit, dans toutes les statistiques qui ont été données, qu'on ne sera pas sur le podium à nouveau à la fin de cette saison.
Voilà, Jean-Michel Aulas, qui est resté assez évasif, finalement, il n'a pas trop voulu se mouiller quand on lui a demandé quels étaient les objectifs. Alors, il le dit quand même, au détour d'une phrase, si on est qualifié, c'est bien, l'objectif c'est de terminer sur le podium, et c'est maintenant qu'ils sont à cette place-là, c'est d'être qualifié aussi pour la Ligue des Champions.
Le plus important pour l'OL, c'est d'y être, et d'y revenir.
Bien sûr. Ouais. À la limite, pour la prochaine campagne de Ligue des Champions.
Ce qui n'est pas bon pour eux, c'est de ne pas finir sur le podium. Ne pas se qualifier demain, et aller en Europa League, ce sera pas une catastrophe industrielle pour Lyon. Ça l'est plus pour le PSG que pour Lyon.
Ça n'a rien à voir. C'est ce que j'allais dire, comme pour tous les clubs français, sauf le voilà. Saint-Germain.
Tu voulais dire sur le PSG du coup?
Oui, donc pour répondre à.
T'as aimé ma métaphore sur le virage?
Oui, c'est pas mal. le PSG, quand tu parles des années récentes, oui, parce qu'en fait, eux, ils avaient, c'était toujours en huitième ou en quart. Au début, c'était en quart parce qu'ils avaient des huitièmes faciles.
Quatre fois quart, deux fois huitième.
Après, il y avait les huitièmes plus compliqués. Et donc, à chaque fois, en fait, c'est simple. C'était quand c'est compliqué, on n'y arrive pas. Cette année, je trouve que la particularité a fait que les matchs difficiles sont arrivés plus vite. Parce que le groupe était plus compliqué. Le groupe n'a jamais été aussi dur, simplement pour le PSG, avec 2 bonnes équipes. Une équipe de Naples qui, quand elle est en Ligue des Champions, va en 8e. Et Liverpool, c'est le tenant du titre. C'est une équipe qui a énormément de moyens, qui est de la dimension du PSG. Et qu'en plus, ils ont commencé par une défaite à Liverpool qui rappelait tous leurs errements passés. Donc ça te ramenait, et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs au sortir de ce match, ça te ramenait à l'idée de stagnation. Voilà.
Et c'était il y a 2 mois et demi.
Et je les ai pas trouvés, moi, extraordinaires contre Naples, dans le sens où le premier match, je le trouve pas bon. Je le trouve un peu dans...
Non, tout à l'heure, j'ai parlé de la phase retour, moi, effectivement.
Et le match retour, mine de rien, tu marques, tu tiens pas vraiment, tu fais une cagade.
T'as une chose qui est bonne, c'est l'état d'esprit.
Ouais, mais
c'est les prémices de ce qui se passe en seconde période contre Liverpool après.
Oui, mais dans cet état d'esprit qui effectivement est un peu meilleur, tu as quand même, et les symboles c'est un peu fort, ton capitaine qui a toujours été un petit peu le joueur qui représentait un peu ta faiblesse mentale, qui fait une cagade qui occasionne l'égalisation. Voilà. Et puisque l'expression consacrée dit que dans le foot ça va très vite, arrive le match contre Liverpool où là justement ton joueur symbole, il est énorme. Il fait un gros match, il en fait même des tonnes sur l'attitude, et ça passe. Avec un peu de vice à la fin qu'on n'avait pas beaucoup vu dans l'histoire récente du PSG. Le vice pour gagner un peu de temps et tout, ça manquait un peu, ça, dans le bagage du PSG.
T'as les leaders qui répondent présent.
T'as un peu plus de caractère, la deuxième mi-temps est laborieuse, mais tu t'en sors. Donc t'as un peu avancé dans le temps les matchs importants. Demain, franchement, moi, je suis pas matheux. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent. D'ici la fin de l'émission, je suis sûr qu'ils sont capables de sortir en stats. Mais c'est quoi? C'est du 90% de chances de te qualifier.
Et sauf. Ah, bah, oui, bah,
en fonction,
si tu gagnes, si tu fais un nul et que Liverpool,
si tu mets bout à bout, si tu mets bout à bout tous les résultats possibles, même en cas de défaite.
Oui. Alors après, c'est vrai qu'il y a la probabilité, même en cas de défaite, que le PSG ne se qualifie pas, elle est quand même, je crois qu'il faut que Naples,
il faut que Liverpool perde
3 buts. Enfin, tu vois, c'est un truc assez fou. Il y a un 0, 2-0.
Tu as quand même une probabilité qui est, si, et à ça, tu ajoutes les composantes club, quoi, tout simplement, la supériorité présumée du PSG, tu dois arriver. Alors, on va me dire, PSG-Barça, c'était 99%. Enfin, le Barça-PSG. Ok.
Bon, c'est pas le Barça en face.
Normalement,
même si
les exploits comme les énormes catastrophes, elles sont pas faites pour se reproduire souvent, logiquement. Mais il y a une probabilité, mais énormissime, quand tu étudies tous les résultats, que le PSG soit quand même en huitième.
Sauf que si tu veux faire des probabilités, Daniel, il y en a une qui est pas l'avantage du PSG, c'est que cette équipe ne perd pas chez elle depuis un an et demi.
Oui, non, mais même en cas de
Mais même en cas de défaite, si tu fais nul, j'espère que les joueurs du PSG ne comptent pas là-dessus. Parce que là, c'est pas comme ça que tu sortiras grandi de ce virage.
Je parle pas de ça. Oui, mais je te dis que.
Et t'auras pas pris grand chose si tu sors de là en perdant à Belgrade et en qualifiant
en huitième. Tu sais très bien que ce qui va être un petit peu retenu, c'est ça. Après nous, les conclusions, bon. Mais il y a quand même de fortes probabilités pour qu'ils y aillent en huitième. Même s'ils gagnent pas, en faisant même un nul un peu pourri, diront on a fait le job contre Liverpool. Ouais.
Je vous donne justement les cas de figure. Donc le PSG sera qualifié en huitième de finale s'il bat l'étoile rouge. S'il fait match nul et que Liverpool bat Naples 1-0, 2-1, 3-2 ou par au moins 2 buts d'écart, si Liverpool ne bat pas Naples. Voilà. Et après, il y a encore d'autres cas de figure.
Oui, non, mais
ils sont encore plus.
Si,
ouais,
c'est un peu dingue, quoi. Donc voilà. Donc oui, je suis d'accord avec la métaphore. Ils sont, mais très loin d'être sortis du virage. Parce que sortir de cette poule, c'est bien, mais évidemment que le rendez-vous le prochain, ce sera le huitième. Que il n'est pas exclu qu'ils aient un coup de bol et qu'ils tombent sur une équipe abordable en huitième. Et là, l'histoire, tu sais, c'est le truc qui est bien aussi avec le foot, c'est qu'une année tu peux être en catastrophe, mais que l'année prochaine, l'année d'après, tu reviens et que tu peux récupérer de la cata. C'est ça aussi qui fait que que ce sport va te permettre de te relever même quand tu tombes. Et bon, voilà, l'histoire.
Ça serait pas mal d'avancer là avec tous les changements qu'il y a et qui sont pour moi.
Alors les gars,
qui vont dans le bon sens.
On accueille Thibaut, qui est supporter du PSG, qui nous a appelé au 32-16. Salut Thibaut.
Bonsoir monsieur.
Comment ça va Thibaut?
Bah ça va très bien, ça va très bien.
Confiant pour demain ou pas alors?
Bah écoute Nicolas, depuis le début de saison quand on évoque le Paris Saint-Germain, je parle pas seulement en termes de match, hein, de prestations, je parle de tout ce qui entoure le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire le fair play financier, les arbitres qui sifflent pas de pénalty pour le Paris Saint-Germain, l'arbitrage un petit peu tendancieux. Si demain...
Les pseudo-matchs truqués,
avec, voilà. Si demain, avec l'équipe, quand je parle l'équipe, je parle de qualité de joueur et l'enjeu qui entoure ce match, le Paris Saint-Germain... n'est pas capable d'aller d'aller donner la leçon à l'étoile rouge de Belgrade, même si elle a tenu miraculeusement contre Naples et elle a fait deux tirs face à Liverpool puis ensuite s'est recroquevillée dans sa surface pendant 70 minutes. Si le Paris Saint-Germain avec son équipe n'est pas capable d'aller gagner à Belgrade, ah ben on arrête tout, on parle plus de fair play financier, on parle plus d'arbitrage, on parle plus de d'adaptation, de Neymar qui est heureux, pas heureux.
Ouais, moi là, je suis d'accord, là pour le coup je suis d'accord avec toi, t'as une vision qui est un peu dure mais que je partage au final. Après ce que tu as fait dans cette poule, les résultats, le match charnière contre Liverpool que tu gagnes, si dans le peu de probabilité que t'as de te prendre la porte dans la gueule demain, tu finis par la prendre. Bon bah écoute,
c'est que tu l'as mérité, tu veux dire.
Voilà, passons à autre chose. Pense déjà à l'année prochaine et puis au revoir tout le monde, quoi. Voilà.
Exactement. On parle plus de UEFA, de quoi que ce soit.
Ouais, bien sûr. Là, je suis d'accord. Ouais, bien sûr.
Après, messieurs, alors moi, je vous rejoins aussi, mais faudra pas minimiser un bon match du PSG là-bas et une victoire du PSG là-bas. C'est pas simple.
Non, tu ne minimiseras pas, mais c'est de pas toute simple. Façon, ça ressemble à quelque chose qui doit être fait.
Mais attention, faut faire ce qu'il faut. Ouais.
Alors messieurs, je vous donne quelques petites infos sur le PSG aussi. Alors vous savez que Neymar s'était pas entraîné hier, il a fait le déplacement à Belgrade. Alors on vous avait dit également, Saber Defarge avait enquêté, le staff était plutôt confiant quant à sa participation demain pour le match face à l'Étoile Rouge. Il y a 500 supporters qui sont attendus à Belgrade, 500 supporters du PSG également, qui seront très encadrés. Et puis une info qui est tombée il y a quelques instants également.
Neymar, si je peux me permettre, oui. Ça devrait... Alors oui, on a tous envie, ou en tout cas les supporters du Paris Saint-Germain ou ceux qui veulent voir le Paris Saint-Germain se qualifier, ont tous très envie que Neymar joue. Ça sera mieux. Mais j'ai presque envie de te dire que ça doit même pas être un problème si Neymar ne joue pas demain.
Bien sûr que ça doit pas être un problème.
Tu dois faire le type de match que tu dois faire demain. Alors ça sera sûrement un peu plus facile avec lui, mais tu dois le faire aussi, être capable de le faire aussi sans lui.
Et puis vous vous souvenez qu'après le match aller, il y avait une affaire de match présumé truqué face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Deux dirigeants parisiens ont été entendus dans le cadre de l'enquête sur ces soupçons justement de match truqué. Et finalement, les enquêteurs sont convaincus que le PSG n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Voilà, c'est une info qui a été annoncée par l'équipe ce soir. Voilà.
C'est vraiment étonnant, hein, tu vois. Ouais. Tu vois, quand je dis que certains médias et tout le monde va vite...
On attend la une des journaux demain pour rectifier.
En fait, on décidait que le métier c'était devenu de raconter des histoires et donc de faire du storytelling. Donc ils l'ont fait avec cette une soupçon pour ensuite à l'intérieur dire que ça ne concernait que l'Étoile Rouge, mais évidemment on accède toute la réflexion, toutes les photos, tout le propos autour du PSG parce que ça fait scandale et parce que ça fait vendre. Ce gros titre, je m'en souviens comme de quelque chose de totalement scandaleux, et donc finalement la suite c'est là aujourd'hui le PSG hors de cause. C'est ce que j'appelle une guignolade intégrale.
Le PSG n'a jamais été mis en cause.
Voilà, donc hors de cause alors qu'il n'a jamais été mis en cause, c'est une guignolade. Je pense qu'il devrait, enfin les gens qui ont fait ces titres-là devraient avoir honte, mais je pense qu'ils n'ont pas honte parce que ça fait partie maintenant de leur business et de leur façon
de procéder. Après, la une, c'est pas forcément le journaliste qui écrit l'article, par exemple, qui l'a choisi. Tu sais comment ça fonctionne.
Oui, non, mais c'est une ligne éditoriale.
D'accord. Mais moi, je vous le dis, ça fonctionne pas comme ça.
Oui,
les gars,
je sais. Mais la ligne éditoriale.
Enfin, il y a bien quelqu'un qui décide.
Oui, mais il y a justement.
C'est pas
le
red chef qui l'a mis.
Non, mais c'est le red chef, c'est pas le red chef qui écrit forcément le papier. Voilà. Oui, même d'ailleurs.
Enfin, le décideur.
La ligne éditoriale est absolument claire. C'est une guignolade permanente autour du PSG parce qu'il a été décidé que c'était comme ça que ça marcherait plus pour vendre le papier. Il n'y a jamais eu le moindre doute quant à l'implication du PSG dans cette affaire, je sais même pas ce que c'est en fait. Donc voilà, fin de cette guignolade ce soir.
Juste parce que moi je suis un ancien joueur, je connais pas les rouages de la presse. Tu veux me dire que les journalistes qui écrivent les articles au sein de ce journal avec cette une là
ne veux même te dire plus.
Ne sont pas d'accord avec ce qu'ils écrivent, quoi. Je veux dire.
Non.
Enfin, ou en tout cas,
Non. J'ai jamais dit ça.
Mais j'essaie de comprendre.
Mais par exemple, je vais donner un truc tout con.
On leur demande d'écrire un article dans un certain sens.
Non, pas nécessairement. Non, c'est pas nécessairement. Après, ils ont leurs infos, ils les balancent. Voilà. Et un article peut être écrit.
Ils ont leurs infos.
Non, mais ils peuvent avoir leurs informations.
Tu ne peux pas dire soupçon pour ensuite expliquer que en fait il y en a pas vraiment mais que ça porte sur l'autre club, mais toi fais donc toute ta com
et donc t'es en train de dire la même chose. J'essaie de t'expliquer,
tu ne peux pas faire ça.
Bon, Daniel, si je peux en placer une, j'essaie simplement de te dire, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, que le titre même d'un article, c'est pas le mec qui l'a écrit qui le choisit très souvent. Donc toi tu ouvres ton canard, tu vois le titre,
contenu de l'article,
tu dis merde, et je vais même te dire, il y a plein de journalistes qui sont souvent très vénères. Moi ça m'arrive parce que j'écris aussi dans la presse, parce que je vois le titre souvent, je me dis putain mais merde, pourquoi ils ont mis ça alors que c'est pas ce que je souhaitais.
Tu me permettras déjà de ne pas y croire. Tu me permets de pas y croire.
Et c'est comme ça que ça fonctionne pourtant.
Je sais qu'il y a des cas où ça fonctionne, mais qu'en l'occurrence, le PSG est un sujet assez sérieux pour ce média pour que tout soit fait en concertation et que le storytelling aille dans ce sens-là. Donc je n'y croirais pas. C'est une guignolade intégrale et on ne peut pas faire ça. Pour moi, c'est une faute professionnelle. Tu ne peux pas faire cette une comme ça, ce qu'il y a écrit dedans, pour au final mettre ce qui va sortir aujourd'hui.
C'est presque de la diffamation. Presque. Pas tout à fait. On est dans le soupçon, on n'est pas dans l'accusation, mais
excuse-moi,
presque.
Mais...
Tiens, dans quelques instants, les gars, on réécoutera Jean-Michel Aulas qui était l'invité de Breaking Sport, là, parce que Arthur Robert me parle en même temps. En fait, on est super à l'heure.
Ouais, il est relou.
On écoutera Jean-Michel Aulas dans quelques instants également. On va parler un peu de la VAR également, ou du VAR d'ailleurs. Tiens, on a une explication là, tiens, sur le hashtag RMC Live. C'est aussi à ça que ça sert. Voilà, sur la prononciation du VAR. Tiens, je vais te le retrouver. C'est Doggy Doug. Doggy Dog même. Qui nous est. Tiens, je vais le retrouver. Enfin, je le retrouverai après, tiens, dans quelques instants. A tout de suite avec Pierre Ducreux et Daniel Riolo. C'est trop long.
RMC Football Show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Pierre Ducrot et de Daniel Riolo. Vous êtes avec nous également sur l'application Direct Studio. Vous êtes également avec nous sur le hashtag RMC Live. On vous rappelle qu'il y a des cadeaux à gagner dans l'after. Vous serez tiré au sort ce soir pour gagner, je sais pas, une tablette tactile, une console de jeu, par exemple, des téléphones, un ordinateur portable. Vous envoyez Noël au 732-16. Noël au 732-16. Et il y aura un vainqueur dans cette fin d'émission, comme tout au long de cette semaine d'ailleurs. Tiens, Jean-Michel Aulas, invité de Breaking Sport cet après-midi. Il a aussi, on lui a aussi posé la question. C'est vrai que Bruno Genesio est quand même, divise quand même pas mal les supporters de l'OL notamment. On lui a demandé s'il était critiquable justement son coach Bruno Genesio à Jean-Michel Aulas.
Non, je la comprends pas, je l'ai expliqué, elle n'est pas justifiable. Elle est simplement engendrée par un certain nombre de réactions qui sont des réactions liées à l'histoire. L'Olympique Lyonnais a été, avant que le Paris Saint-Germain n'existe avec ses 800 millions de budget annuel, c'est 4 fois... le budget réel de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes le seul club à être propriétaire de nos infrastructures. Donc, faut comparer les choses comparables. Donc...
Voilà, Jean-Michel Aulas, donc ça rejoint un peu ce qu'on disait.
Je crois que c'est 3 milliards le budget du PSG.
Mais en fait, c'était. Je comprends pas le. Bon, effectivement, c'est toujours.
Non, moi, je comprends pas le rapport entre le budget et le million du PSG.
C'est toujours indéfiniment, le même argument, mais je le comprends toujours pas, en fait.
Non, mais c'est quoi l'argument?
Est-ce que quelqu'un lui a reproché de ne pas être champion?
Non. Non mais c'est surtout que là on lui demande, on lui parle de Bruno Genesio, on lui parle du jeu, des résultats.
C'est pour ça que la réponse est complètement à côté de la plaque.
Mais c'est vrai que ça a été, enfin on sait que ça revient souvent dans son discours, ça a été le cas encore cet après-midi aussi.
Comme je disais tout à l'heure, son analyse du foot est toujours fondée sur des considérations financières. Bah moi je lui demande pourquoi tu te fais balader dans le jeu par Hoffenheim. Bon voilà, lui il va me répondre, on n'a pas perdu. Bon ok, très bien, c'est très très bien. Ok, tu n'as pas perdu par le Shakhtar, c'était la même chose. Il y a 2 ans, quand il se fait taper par la Gantoise, c'était la même chose. Donc moi je veux bien sans arrêt ces histoires d'oseille. Mais et toi alors dans ce cas-là, si on parle de Saint-Étienne, ton grand rival, bah il a 3 fois moins d'oseille que toi. Et tu te glorifies sans arrêt de lui mettre des fessées. Bah tais-toi.
Non mais c'est
tais-toi.
Heureusement aujourd'hui que complètement tout.
Non mais bien sûr que ça fait énormément.
Ça fait énormément, mais pas complètement tout. Mais après, non, ce que je comprends pas, c'est quel est le rapport entre
s'il vient dire le coach, ça va être très compliqué pour nous. Ça va être très compliqué pour nous d'être champion parce que le PSG a beaucoup plus d'argent que nous.
Bah, c'est une réalité. Oui,
Jean-Mich, aucun problème. T'as raison. En revanche, si toi tu termines deuxième, c'est absolument normal vu les moyens. Financier que t'as en plus par rapport aux autres, et surtout quand tu te permets 3 phrases plus loin, et ça je sais pas si on va l'entendre, ce qu'il a dit sur l'OM quand il a dit je suis content quand on fait un résultat à City et qu'on écrase l'OM à domicile. Ah. Ça il utilise pourquoi le mot écraser?
Hein? Ah, parce qu'il les a écrasés.
Bon voilà, non mais tu vois, donc cette espèce de condescendance et de mépris, il est pas obligé puisque l'OM a moins d'argent que lui. Donc dans ces cas-là, il dit pas la même chose.
Normal.
Si Nasser Al-Khelaifi se permettait demain de dire on a écrasé Lyon au Parc, il réagirait comment Olas? Ouais, mais vous avez 3 milliards de budget.
De toute façon, oui, même là quand on parle pas du PSG, ça revient.
Voilà. Donc voilà. Et dans ce groupe de Ligue des Champions, il doit sortir s'il veut parler que d'oseille.
Oui, c'est sûr. Si tu respectes la hiérarchie des budgets, oui.
Donc à chaque fois, on est propriétaire de ceci, de cela, de machin, de truc. Ouais, t'es propriétaire de tes excuses, de tes prétextes et de ta communication depuis des années. Ça aussi, oui.
Tiens, sachez qu'il vient d'avoir lieu le tirage au sort des 32e de finale de Coupe de France qui auront lieu les 5 et 6 janvier prochains. Je vous donne les adversaires des clubs de Ligue 1. Montpellier jouera face à Sannois-Saint-Gratien, club de National 1.
Ça passe.
Voilà. Viry-Châtillon-Angers.
Et où, à Montpellier?
Non, c'est à Sannois-Saint-Gratien même. Viry-Châtillon sont en R1, régional 1, face à Angers. Nantes-Châteauroux.
Ça passe pas pour Angers.
Nantes-Châteauroux. On la Ligue 2, Châteauroux. Red Star Caen.
Viry-Angers, ça passe pas pour Angers?
Non.
Tu sens le traquenard, toi.
Tant qu'il respecte les budgets.
Alors ce sera pour l'OL, tiens justement, on l'évoquait il y a quelques instants, soit l'US Charitoise.
Pour qui ?
Pour l'OL, l'Olympique Lyonnais. Soit Bourges, deux clubs de National 3. Voilà, le vainqueur de ce match affrontera l'OL. Alors oui, tiens, j'ai oublié de vous préciser, ça c'est dans le groupe A.
Et l'OM ?
Il y a quatre groupes, attends, il y a quatre groupes au fait qui sont divisés selon les zones géographiques. Mmh. Ça c'était le groupe A. Groupe B, Grenoble face à Strasbourg.
Oh, ça va être beau.
Sans chaud, Grenoble en plus. Mmh. Amiens-Valenciennes.
Ça passe pas pour Amiens.
Celui-là, il est pas mal aussi.
Ouais, il est pas mal.
Schiltigheim-Dijon. C'est vrai que Schiltigheim, grosse équipe de
ça
Coupe
passe
de France.
Pas.
LOSC-Sochaux, c'est un joli choc également. Ouais. C'est pas mal aussi.
Ouais, ça passe pas. Sochaux, c'est très très en difficulté en ce moment. Quand même.
Olympique de Strasbourg, équipe de Régional 2, face à l'AS Saint-Etienne. Ah, ça, c'est l'un des petits poussets qui a
fait. Ça passe pour les Verts.
Tiens, on va écouter justement.
J'ai oublié le principal. Il y avait un Rennes.
Attends, mais c'est pas fini.
Ah, c'est pas fini.
On va écouter Aziz Soylou, le président de l'Olympique Strasbourg, qui affrontera Saint-Etienne.
Ah, Bouderbala.
Non, non. C'était au micro de Jeannot Rességuier il y a quelques instants.
Affranchir ça, c'est inimaginable. Mais bon, après, on va voir le côté festif de la chose et on va accueillir Saint-Etienne. Ça va être un événement exceptionnel pour la ville, pour le quartier, pour tous les gens qui nous encouragent. Donc c'est super.
Voilà, je poursuis. Allez, donc. Groupe C maintenant. Canet-Roussillon-Monaco. Canet-Roussillon, c'est National 3.
Ça passe pas pour Monaco, là.
Lyon-la-Duchère-Nîmes. Lyon-la-Duchère National. Andrézieux, Olympique de Marseille. National 2, Andrézieux.
Pas Andrézy dans les Yvelines.
Non, c'est pas pareil, non.
Ça passe pas.
Andrézieux contre qui ?
Pour l'OM.
Ah, bah, normalement.
Oui, normalement.
Là, si tu compares les budgets.
J'aime bien s'il dit normalement.
Bah oui.
Moi, je précise que c'était. Je déconne. J'ai des gens qui, évidemment, prennent tout ça à chaque fois au sérieux.
Tu vas te faire défoncer.
Et ils prennent des notes à la maison. Ils font. Oh, t'avais dit que t'avais un truc. Ça, c'est. Oh là là.
Groupe D, et donc le dernier. Là, il y a des jolis chocs aussi.
Eh oui, c'est
Bordeaux-Le Havre.
Oh, bah là, Bordeaux, ça passe vraiment pas.
Bah, difficile. Pontivy-Paris-Saint-Germain. Voilà. Pontivy National.
Si on n'a pas déjà joué le Pontivy.
C'est pas impossible. Bonne équipe en coupe aussi.
Ouais, ouais.
Rennes-Brest.
Ça, c'est beau, ça.
Ouais, voilà.
Là, on est d'accord que Rennes, ça passe pas.
Ouais, ça joue bien, Brest installé. Hein.
Et Reims-Lens aussi. Pas mal aussi, ça.
Ouais, ouais. Voilà. Ouais, il y a quelques belles affiches.
Voilà, les gars.
Donc, premier week-end de janvier, on est.
Ah oui, tu voulais glisser un petit mot sur le VAR.
5-6 janvier. Terrain dur, gelé, grêlon, éventuellement.
La magie de la Coupe de France va opérer durant l'hiver, vous savez.
Caméra embuée quand les mecs font la fête à la fin dans le vestiaire.
Ça, c'est mes souvenirs d'enfance, c'était
les caméras embuées.
Ah ouais, putain. Quand j'allais au foot avant. Ah, c'était moi, c'est mes souvenirs téléfoot.
L'odeur de camphre à travers la caméra.
Ouais.
Tu te rappelles les sponsors maillots aussi?
Les TF1.
Ah non, pas TF1, t'avais le Lyon.
RTL.
Lyon, La Poste.
Oh, mais ça, c'est plus tard, ça.
C'est plus tard, ça.
Avant, c'est TF1, RTL, bien sûr que si.
Ah oui, mais alors, c'est beaucoup, beaucoup.
Après, attends, oui, t'as eu Pitch, t'as eu.
Attends, t'as combien de. T'as quel âge t'as,
non,
t'as,
nous, t'as, alors, t'as moi, petit.
36 ans.
Moi, petit, les matchs de Coupe de France, c'était RTL contre Calberson.
Ouais.
Un grand classique.
Redis, pardon.
Encore plus ancien.
Redis.
RTL contre Calberson. Parce que t'avais deux sponsors.
Ah non, Calberson, c'est trop vieux.
Calderon.
Après, t'as eu Perrier en sponsor de Coupe de France.
Ouais, c'est avant,
c'est
vieux, ça.
Platini gagne la Coupe de France avec
t'as
maillot
pas eu,
Perrier.
Non, Europe 1, non? C'était pas la Coupe.
Tu sais pourquoi je me rappelle de...
Europe 1 en Coupe, je crois pas.
Ah non, attends.
Pourquoi je me rappelle
François Pesanti vient de m'appeler, il vient de me dire non. C'était RMC.
En Coupe de France, non plus.
Tu sais pourquoi je me rappelle du placardage Lyon ou
parce
la Poste?
Parce que ça collait à mort, non, sur le truc. C'est horrible.
Ça a été les tétons. Un truc de malade.
Attends, et vous en avez eu un autre, vous? Le CA Tourtel. Le CA Tourtel que vous aviez.
Ah, c'était pour Coupe, ça, c'était.
Non, mais un champion. Attends,
c'est
vrai, on me l'avait offert à ma communion, ce maillot.
Ouais, c'est
attends, mais tu jouais avec, tu transpirais, t'étais tout collé avec des trucs dégueulasses,
c'est
énorme.
C'était un truc en plastique collé sur le maillot, quoi.
Maillot, je me souviens, époque Ginola avec les trois petites étoiles, le
collier. Avant Muller. Tu te rappelles le sponsor aussi, Muller?
Oui, mais là, on est sorti
de la Coupe de France. Produits laitiers allemands.
On
avait un frigo quand on est là, tous les produits laitiers allemands
dedans. Non, mais je parlais sponsor de Coupe. Ça, ils sont intéressants.
Tu sais quoi? Et balancez-nous sur le hashtag RMC Live les sponsors les plus pourris que vous avez vus sur les maillots. Non, il y a eu des trucs pas mal.
Plein, mais ceux de
le Mas Doge.
Le sur la.
Le Justin Bridou à l'OL. Putain, vous vous souvenez? Justin Bridou à l'OL, époque Olmeta, etc.
Bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
Ah, je m'en souviens plus.
Bah,
je m'en souviens
pas. Bridou à mort.
Non, je m'en souviens plus.
Bien sûr.
Vous aviez Liptonic en Ligue des Champions aussi au PSG.
Ouais, exact.
Bref.
Exact.
Dans quelques instants, les drôles de dames seront avec nous. On va évoquer le match notamment entre.
Oui, d'accord que le sponsor joue dans la tête des joueurs.
Bien
sponsor
sûr.
Ridicule, ça atteint le joueur.
Tu penses quoi?
Absolument.
C'est vrai.
Le sponsor
ça
sérieux, bah.
Moi, je rigolais, mais t'as l'air sérieux. Je pense que.
Ah ouais. Bon, moi j'ai
pas.
Non.
Si.
Remarque, j'allais dire, j'ai pas avoir eu Opel, j'ai rien gagné, mais non.
Si t'as un ridicule et tout.
Il fallait que j'ai
volé en front terrain.
J'ai fait Ferrari.
Si tu regarderas, ça touche et les supporters et les joueurs et tout, ça fait genre club sérieux.
Je crois que c'est pour ça qu'on a des problèmes en Ligue 1 avec les Ligue 1 Conforama.
C'est pas pareil, c'est le sponsor.
C'est pour ça qu'on les démonte.
Ouais, alors détrompe-toi, mais quand la Ligue a cherché le sponsor de la Ligue, ils ont fait effectivement attention à que ce, à que ce soit pas une marque,
on va dire, bonne image,
on peut se moquer. Ouais, mais tu vois, après, Conforma, il y avait aussi motif
conclusion. À moquerie, hein. Conclusion, il y a...
meubles, championnat en bois...
Il y a si peu de buts qu'on est obligé de meubler. Quoi.
Bon, mais au début, ils cherchaient plutôt genre une banque, un truc de téléphonie.
Ah ouais, mais non.
Ça, c'est pas trop sujet à moquerie.
Ouais, je suis un génie, mais personne n'a entendu. Merci, quand
aujourd'hui, t'auras difficile. le club qui se met avec le maillot peau douce, un truc de PQ.
C'est des couches, non?
Peau douce, c'était des couches et du PQ.
Il y avait du PQ peau douce.
Bah oui.
Lotus, ouais, non?
Je sais pas.
On va vérifier.
Donc Lyon, aujourd'hui, se remettrait pas avec Justin Bridou, j'en suis persuadé. Aujourd'hui, non. À l'époque, c'était un club qui
nous fait
et tout. C'est l'année où ils ont fait deux.
On y va, il y a les drôles de dames qui nous attendent. Grosse semaine européenne qui débute demain, vous le savez. On revient avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo dans quelques instants.
RMC Football Show. L'Afterfoot. Nicolas Villas.
En compagnie de Pierre Ducrot, de Daniel Riolo, nos drôles de dames nous ont rejoints. Avec nous ce soir, comme chaque lundi d'ailleurs, David Lortolari. Bonsoir David.
Allô Freund, salut messieurs,
comment
salut à tous. Ça va Dave? Il va pas mal, sauf que j'ai un projecteur dans mon tableau là, donc j'arrive pas à voir le classement. Donc je vais le faire de tête peut-être tout à l'heure. Dortmund est en tête, hein, je te le dis tout de suite. Mais... ah oui,
merci.
Ouais, bah,
voilà.
Les techniciens sont
là. Simone Rovera est là également. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Comment ça va?
Tendu.
L'émotion. La veille de la grande soirée.
Non, ça ne s'appelle pas de l'émotion, ça s'appelle,
teasing.
Ça s'appelle du stress.
Combien tu passes d'équipes demain?
Non, l'émotion, c'est après.
Il faut faire
à la fin de la semaine, tu passes combien d'équipes?
Il faut faire 4 sur
4. Annonce.
4 sur 4.
Les 4 sur 4, tu penses que tu peux les passer?
On va y revenir tout à l'heure, mais ça ferait bien longtemps.
3 sur 4, objectif.
Ça fait bien longtemps que c'est pas arrivé.
Début des années 2000, non?
Ouais, c'est ça.
3 sur 4, combien t'en passes, toi, David?
3.
Tu penses que t'en passes 3?
Offenheim va rester sur le carreau, les autres passent, ouais. C'est fait déjà, c'est fait, Daniel.
Ah oui, en plus, c'est vrai. Donc, ouais, bien
tiens,
sûr.
Tiens, les gars, on annonçait tout à l'heure. Tiens, Julien Laurent, c'est là aussi, Julien.
3 sur 4, c'est bien.
Ouais. Bonsoir à tous.
Bonsoir, Julien.
Jennifer, il pourra en perdre une importante.
Jennifer, oui, Jennifer. Alors, tiens, sache que
c'est possible.
On se balance des textos toute la journée pour préparer les émissions.
Oui.
Et bon, aujourd'hui, tout le monde t'a appelé Jennifer. Voilà.
Ça fait un petit moment, c'est dur pour lui. Il n'est pas au courant.
Ça va, ça va.
Voilà, maintenant, tu le sais, quoi. C'était.
Ouais, voilà, ça va, ça va.
Voilà, Jennifer Lawrence, vous aurez compris, bien sûr. Alors, on se faisait un petit jeu, là. Alors, vous êtes des grands malades, là, sur le hashtag RMC Live. Les sponsors les plus pourris qui ont existé sur les maillots de foot. Alors, on a des trucs, on a du Shopee. Il y a Robert Malm qui nous écoute, qu'on salue d'ailleurs. Le Shopee sur le maillot de Lens. Peau douce, c'était Lille, et ce sont bien des couches, hein, peau douce. Hein. Couches jetables.
Ah oui, en aucun cas du PQ.
En tout cas,
je suis jamais dessus avec.
Justin Bridou à Lyon, on l'a dit tout à l'heure, effectivement. La Halo Vêtements à Châteauroux. Voilà, on a Alain qui nous dit ça sur le hashtag RMC Live. Vous, dans vos pays respectifs.
C'est pas sérieux, t'es pas pris au sérieux, je suis désolé, c'est comme Baguet Pille à 3.
Exactement, Baguet Pille à 3 il y a quelques années. Bah, c'est quoi les sponsors les plus kitsch qui ont pu
exister? Moi, je pense à un sponsor que Fribourg, petit club régional du sud-ouest de l'Allemagne, a en ce moment encore. Ça doit être le Schwarzwald Milch, qui est un lait local, lait régional. Donc, ça fait pas super sexy quand tu veux jouer à la
Coupe. Comment ça, Pierre?
Moi, t'es l'entreprise locale.
J'ai eu Lactel, BA, je sais plus, il y en a eu
Lactel.
Ouais. Non, mais il y avait un troisième aussi qui était un des
Auxerre, produits. Auxerre avait la Chaillotine, mais c'était.
Ah non, le Duc de Bourgogne, surtout.
Duc de Bourgogne,
oui, c'était le roi du poulet.
Avant. De toute façon.
Ah oui. C'est le roi du poulet qui dirigeait le club.
Patron,
donc,
voilà. Simone, fait pas genre, il y a que des trucs là sur l'Italie.
Ça se tenait.
Ouais, je suis en train de réfléchir. Je me rappelle que c'était un peu triste. L'Inter, à l'époque, en années 90, avait un sponsor Fiorucci, qui c'était de la charcuterie.
Ah oui, mais c'était une bonne marque de. C'était de la charcuterie au très haut niveau, quand même.
Très haut niveau, mais c'était la charcuterie.
Attends, t'as pas eu des trucs kitsch en Italie?
Je suis en train de réfléchir un peu.
Ah, on va trouver.
On a quand même beaucoup de charcuteries, hein. Même Torino.
Ah, t'as eu du Parmalat aussi, là, on parlait du lait tout à l'heure.
C'était pas.
Ah non, c'était bien, non.
Excuse-moi, mais en Italie, la charcuterie, c'est noble.
Ouais, voilà.
C'est pas la même chose, quoi.
Oui, après, veux dire que c'est pas.
C'était des marques.
C'était quoi Sedan déjà?
Très cher.
C'était quoi Jean Floch, non?
C'est pas juste un Bridou. Jean Floch, c'est de l'industriel.
Peut-être sur le short, toi.
Avant encore. Oh, attends, il était énorme leur truc. En tout cas, c'était pas joli.
Les joueurs avaient une Smart d'ailleurs.
Oui, mais c'était pas très esthétique. Époque Nicolas Sachi, là.
Je préfère avoir Smart quand même, une petite Smart pour aller à l'entraînement qu'autre chose.
Quoi qu'une Opel Frontera comme t'avais toi? Attends, c'était classe ce que vous aviez à l'époque.
Moi, l'Omega, la Vectra, le Frontera, j'ai tout eu.
Bah, Lyon aussi, ils ont fait l'Astra, Giorgio.
Oui. on avait le tournoi au début de saison en match de préparation, on faisait le Milan AC, le Bayern et le PSG, c'était un tournoi
Opel.
Ouais. On faisait le mi-temps chacun contre.
Les gars, on va finir en Angleterre. Il y a eu du lourd en Angleterre ce week-end. Jingle, Julien Laurence.
Man, quelle surprise! Just imagine, they can go top of the table in Ligue 1 if they win on Friday night.
At home against Lille.
Alors les enjeux des clubs anglais en Ligue des Champions cette semaine. Demain 21h, Tottenham joue sa qualif en 8e, ce sera Barcelone. Man City est qualifié mais devra faire au moins nul face à Hoffenheim pour assurer la première place du groupe où figure l'OL. United est qualifié, alors il joue aussi la première place. Et donc Liverpool, on en a parlé tout à l'heure dans le groupe du Paris Saint-Germain. Parlons un petit peu de ce Chelsea-Manchester City de ce week-end si tu veux bien, puisqu'on évoquait le groupe de l'OL. Victoire 2-0 de Chelsea face face à Man City. Première défaite de la saison pour les Sky Blues. Ça a beaucoup fait parler ça en Angleterre forcément Julien.
Ouais bien sûr, alors on en avait parlé dans l'émission samedi soir déjà, juste après j'ai re-regardé le match pour voir si mon ressenti était le même. La première mi-temps de City, elle est exceptionnelle. Sincèrement, jusqu'à la 45e minute où Chelsea marque sur son premier tir, même non cadré ou cadré mélangé, sur son premier tir Chelsea marque le but de Kanté. C'est la cinquième passe seulement qui réussit dans les 30 derniers mètres de City dans cette première période, le centre d'Hazard pour Kanté. De l'autre côté t'as 53 passes pour City dans les 30 derniers mètres adverses. J'ai trouvé la première période de City exceptionnelle en termes de maîtrise technique, de maîtrise tactique. Les occasions qui sont créées, d'accord, ils n'ont pas marqué de but, donc forcément à la mi-temps ils perdent, mais j'ai trouvé cette maîtrise assez incroyable. Et le problème de City, je trouve, c'est que parfois ils s'installent dans ce confort quand ils sont très au-dessus des adversaires, ou après ils ont plus de mal, notamment quand ils sont menés et quand ils doivent courir après le score, comme on l'a vu après la pause.
Ouais, c'est vrai qu'à la mi-temps, ça faisait quand même hold-up, hein, le 1-0 et le but de Kanté. Hein. Franchement, c'était leur seul tir cadré. Hein, on en avait parlé ce week-end également. Alors, ce qui fait beaucoup parler en Angleterre autour de ce match, Julien, bah, c'est une chose qui s'est passée hors du terrain, justement, et qui concerne Raheem Sterling. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est le gros débat ici en Angleterre, le retour du racisme, ou en tout cas la réapparition du racisme dans les stades en Angleterre de la part des supporters. On se rappelle le week-end dernier la peau de banane lancée par un supporter de Tottenham en direction de Pierre-Emerick Aubameyang après son l'ouverture du score et son penalty. Contre,
tu te souviens qu'on disait, c'est quand même de la folie parce que le gars évidemment va se faire choper évidemment. Hein. Ok, radié à vie.
Radié à vie.
Il s'est fait choper, radié à vie. C'était
évident. Date, je crois d'ailleurs, ils ont arrêté 4 mecs.
C'était évident. Oui, très bien. Et c'est pour ça que je disais, mais qu'est-ce que le mec, le type, il sait qu'il va se faire choper, il sait qu'il sera radié à vie. Bah non, mais c'est une sorte de suicide footballistique.
C'est ce qu'on avait dit l'autre fois. Quand tu fais ça, ce ne sont pas des gens qui réfléchissent comme nous. Donc quand tu le fais, t'es déjà débile.
Oui. Je crois toujours qu'il y a un peu de raison, un mobile.
Quand on est arrivé là, c'est
chez les gens. Mais là, en plus dans un stade anglais, c'est une pure folie absolue, quoi. Et là, évidemment, ça a continué, quoi.
Bah c'est surtout que Sterling derrière, il est allé plus loin dans ses, enfin il a réagi à ça, Raheem Sterling aussi.
Voilà, alors il a réagi d'une manière selon moi très intelligente, où il n'a pas fait simplement que condamner effectivement ce qui, il n'a pas dit qu'il avait été insulté de manière raciste, mais il a dit que les médias anglais, le traitement des joueurs noirs en Angleterre par les médias anglais attisait le racisme dans les stades et que ça en était une des raisons. En tout cas, il a pris cet exemple qui est vrai, qui est flagrant, entre quand Phil Foden, donc la petite pépite de Manchester City, le milieu de terrain anglais de 18 ans, a acheté une maison pour sa maman d'environ 2,5 millions d'euros. Les journaux anglais ont parlé il assurait le futur de sa famille, de ses parents, il rendait à sa mère. Enfin, c'est un bon fils, exactement.
Et là, c'est quoi le problème? Mais tu vas voir quand c'est un autre joueur qui le fait.
Quand son coéquipier, donc, à Manchester City dans les équipes de jeunes, un défenseur central qui s'appelle Tosin Adarabioyo, quand lui a acheté une maison pour le même prix à sa famille, les journaux anglais, les gros titres ont dit un joueur qui n'a jamais joué pour l'équipe première se permet de dépenser autant d'argent pour une maison pour sa famille. Et effectivement, le traitement médiatique de la même chose, au final, un achat d'une maison effectivement très chère pour la famille, pour les parents, et c'est traité de manière complètement différente.
Le deuxième qui est noir, pas le premier. J'avais pas imprimé l'histoire. Ah oui,
exactement.
Oui.
Et donc Sterling, de souligner que lui personnellement aussi, depuis le début de sa carrière, notamment après le transfert de Liverpool à Manchester City, il est régulièrement, dès qu'il fait quelque chose, c'est traité de cette manière négative, et il le justifie à cause de sa couleur de peau.
Et je pense qu'on a répondu. Est-ce qu'on est allé demander au journaliste qui a écrit l'article de répondre à ça?
Notamment, oui. Donc c'était le Daily Mail qui a fait qui a une position très limite au niveau du racisme, au niveau de l'immigration, au niveau de ce genre de choses-là, déjà à la base. Et eux, pour l'instant, c'est silence radio. Les autres journalistes sportifs du pays disent que c'est peut-être ce qu'il fallait pour que tout le monde se réveille un petit peu, notamment dans la manière dont les gens parlent, dont les gens écrivent à propos de joueurs de couleur ou de jeunes joueurs, hein, d'un traitement différent, comme Sterling l'a souligné. On va voir si ça va changer. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je pense que c'est lourdement ancré dans la culture britannique, ce genre de choses-là. Et c'est pas nouveau. C'est pour ça que là, entre ce qui s'est passé à Chelsea, ce qui s'est passé à Tottenham, Arsenal-Tottenham le week-end dernier, en Écosse samedi aussi, il y a deux supporters de Hearts qui ont été arrêtés après avoir insulté, après avoir des insultes à caractère raciste envers un joueur de Motherwell. Voilà, je pense qu'ils l'ont partout. Pendant un moment, ça avait disparu un petit peu parce que le football anglais avait fait beaucoup pour éradiquer ce racisme. Là, et là clairement c'est en train de revenir dans les stades.
Un mot sur Liverpool également, Julien. Alors c'est vrai qu'ils sont dans le groupe du Paris Saint-Germain, ils ont un match important face au Napoli. Ils se sont du coup les nouveaux leaders de Premier League avec cette défaite de Manchester City. Ils sont imposés 4-0 à Bournemouth avec notamment un triplé de Salah. Alors c'est vrai qu'il y a un paradoxe quand même dans cette équipe. C'est la meilleure défense en championnat dans les grands championnats européens, Liverpool, mais en Ligue des Champions, bah ils ont beaucoup plus de difficultés.
C'est pas le seul paradoxe, il y a celui-là, je crois pas me gourer en disant qu'ils sont invaincus en Premier League.
Tout à fait. Ouais.
Et ils ont perdu 3 fois en Ligue des Champions. 5 matchs de Ligue des Champions. Je pense qu'il y a quelque chose qui m'apparaît de plus en plus clair. J'annonce pas que je découvre l'Amérique, hein. C'est je pense dire un truc un peu banal. Mais je pense qu'à Liverpool, Jenny, il y a un truc, c'est que le titre cette année, ça n'est que c'est l'unique objectif
de cette équipe.
C'est obsessionnel, quoi.
Mais comment,
le titre qu'on attend depuis 90 ou 11.
Oui, mais Klopp, il dit pas à ses joueurs.
Sont liés à un manque d'implication ou un...
C'est possible. Je suis pas sûr que cette année.
Vas-y, Julien.
Moi, je pense pas. Je pense que c'est des matchs qu'ils ont perdu. Klopp, voilà.
Klopp, il dit pas à ses joueurs avant le match à Naples ou au PSG ou à Belgrade.
Perdez, c'est pas grave, évidemment.
Voilà, aujourd'hui, on joue à 50%. Non, mais alors. Moi, je vois pas un Virgil van Dijk ou un Mo Salah aller au Parc des Princes en se disant, tu sais quoi, on joue contre Southampton samedi, c'est le plus important le championnat, donc on veut j'ai du mal à croire. C'est peut-être aussi que dès que le niveau s'élève un petit peu, en Ligue des Champions, aller à l'extérieur surtout, puisque les trois défaites sont toutes les trois à l'extérieur cette saison, c'est peut-être qu'ils ont un peu plus de mal, que Klopp tactiquement, l'absence d'un plan B, quand ça fonctionne pas vraiment sur ce qu'il a de prévu, donc cette intensité, le pressing haut, les trois de devant, quand Firmino est moins en forme, quand Salah ça marche pas trop pour lui.
Quand t'as un football différent, tactique en face
de toi. On continue
à voir ce qui s'est passé avant.
On continue dans quelques instants, les gars. Il est bientôt 23h, on revient dans quelques instants.
C'est intéressant.
On va continuer juste dans quelques instants avec nos drôles de dames. Il y a Fred Hermel qui va l'engendre également, les trois acteurs du coup Daniel Rio.
Du match Chelsea City, d'une question.
Alors vas-y, on posera une question dans quelques instants.
RMC Football Show, l'affaire foot.